Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Calade pour une émission en direct de la médiathèque. Voilà, déjà on pose le décor. À la médiathèque, pour quoi faire? Je vous préviens, à partir de là, plus rien ne va aller droit. Pour danser, un jeudi soir, quelle idée? Il n'y a que les étudiantes et les étudiants pour danser le jeudi soir. Eh ben non, à Villefranche, il y a tout le monde qui peut venir danser. Ou à la médiathèque, là où d'habitude on fait « Chut, pardon, parlez doucement ». Eh bien non, là ce soir il va y avoir du bruit, de la musique, il y a des micros, des haut-parleurs, on a poussé les tables comme dans les chansons et on va danser. Pour vous expliquer tout ça, j'accueille Céline Ducroux, enfin c'est elle qui nous accueille finalement, directrice de la médiathèque. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Et Thierry Renard, directeur de l'espace Pandora.
Bonsoir.
Alors expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce bazar?
Je commence? Alors moi je vais commencer par le contexte général, comme ça Céline ira dans des choses beaucoup plus précises. C'est le magnifique printemps, hein, d'ailleurs depuis hier c'est le vrai printemps, et c'est en une Auvergne-Rhône-Alpes la réunion de deux événements qui se touchent. On entendra tout à l'heure des choses à propos de toucher les autres. Et c'est la réunion du printemps des poètes et de la semaine de langue française et de la francophonie. Et je crois que c'est la quatrième année que nous avons la chance d'être accueillis à la médiathèque de Villefranche. Et nous en sommes très heureux, car ce bal littéraire, c'est un peu un événement particulier auquel nous tenons particulièrement. J'ai fait une répétition là. Céline, c'est à toi, va.
Ça peut passer pour de la poésie. Alors, un bal à la médiathèque, mais un bal littéraire quand même, parce qu'on a la médiathèque. Est-ce qu'on peut en expliquer le principe, Céline Ducroux?
Bien sûr. Alors, c'est un bal littéraire qu'on fait effectivement depuis 4 ans avec nos complices de l'espace Pandora et puis nos complices poètes, poétesses qui sont là et qui attendent leur tour de chant, pour une fois. C'est un concept qu'on a expérimenté effectivement il y a 4 ans et qui consiste à, dans le cours d'une seule et même soirée, à alterner texte et musique. En donnant une petite contrainte d'écriture aux gens qui veulent bien venir s'amuser avec nous. Donc ce sont des textes originaux, et la contrainte d'écriture est la suivante: il faut que le texte proposé commence par la fin de la chanson qui précède, et que la fin du texte se termine sur le début de la chanson qui suit. Voilà.
Une contrainte de début, une contrainte de fin, mais au milieu, la liberté totale.
Absolument, la liberté de création totale et absolue, et après et avant et après, un peu de musique pour détendre tout ça.
Et pour jouer à ce drôle de jeu, nous avons ce soir sur scène Sylvie Calais. Bonjour. Nous avons aussi, alors là j'ai un petit doute, et on n'a même pas eu le temps de se dire avant si c'était Ghislain ou Guilin.
Ghislain.
Ghislain N, Estelle Dumortier, Elisabeth Grandjon, Frédéric Ouder et Julie Viart. Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Alors, pour certaines, c'est le premier exercice d'un bal littéraire. Pour d'autres, non. Il y a une redoublante.
J'ai redoublé ça. Ma quatrième et le bal littéraire.
Et alors, du coup, quel conseil on peut donner un bal littéraire réussi?
Ah bah, de se laisser aller complètement, c'est joyeux, c'est festif, c'est poétique, c'est beau, c'est chaleureux, c'est amoureux, c'est tendre, c'est c'est génial.
Alors je vous propose, pendant les quelques minutes que nous avons ensemble, je vais vous proposer une petite discussion, un petit échange autour de différents thèmes, autour de différentes notions, même plutôt je devrais dire. Et puis ce sera l'occasion, comme ça, en chemin, de vous présenter les unes et les autres, présenter votre parcours, présenter aussi vos spécificités. Mais pour commencer, j'ai envie de vous demander, quelle est la différence entre écrire et faire écrire? Je pense qu'il y en a certaines qui peuvent se sentir concernées. Pour celles qui animent des ateliers d'écriture, pour celles qui ont même publié des ouvrages relatant leurs expériences d'ateliers d'écriture, qu'est-ce qui fait la différence entre écrire et faire écrire? Ah. Frédéric Ouder lève son micro. Je prends ça comme une envie de dire quelque chose.
C'est le même pain, de toute façon. C'est le même bain, c'est la même piscine. C'est le positionnement peut-être qui change un petit peu, évidemment, mais j'ai besoin des deux. J'en ai besoin physiquement et financièrement.
Le plaisir est-il le même ?
Non, pas tout à fait. Généralement, j'aime bien dire à mes stagiaires, l'écriture, c'est comme les abdos. On aime avoir fait ses abdos, on n'aime pas faire ses abdos. Il y a parfois cet aspect-là, c'est vrai. D'abord, je ne suis pas le seul. Je crois qu'on est très nombreux ce soir à pouvoir parler de cette expérience d'écrire et de faire écrire. Donc, j'ai ouvert le bal à ma façon. La parole circule sur les travées.
Sylvie Calais.
Pour moi, écrire, c'est vraiment une activité solitaire. Et faire écrire, par contre, on est vraiment dans une activité de partage, d'échange, d'écoute et à plusieurs. Donc pour moi, c'est la différence la plus grande entre écrire et faire écrire. Mais après, comme dit Frédéric, on est dans l'écriture, on est dans le plaisir du mot, on est dans cette transmission du plaisir des mots.
Quand on fait écrire, j'imagine qu'on pense à la technique, on transmet même des choses de la bonne façon, du bon chemin, presque comme le guide de haute montagne. Mais quand on écrit, est-ce que ça reste conscient ou c'est quelque chose qu'on oublie ? Judith Viard ?
Moi, je n'y pense pas à la technique quand j'écris. Enfin, j'écris un peu encore aujourd'hui. Même si parfois ça peut être un peu laborieux, mais un peu comme j'écrivais quand j'étais enfant, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans et je me disais pas je vais utiliser telle technique où ça se faisait tout à fait spontanément et naturellement. Donc je crois que j'ai encore gardé ce caractère instinctif de l'écriture. Donc je ne pense pas à une méthode particulière. En revanche, j'ai mis du temps à me sentir légitime pour faire écrire les autres. J'ai beaucoup observé dans Pas d'équerre, Patrick Clopin est venu dans mes classes, Fabienne Soitlitre, d'autres écrivains, écrivaines, et je les ai beaucoup observés avant de me donner l'autorisation de faire moi-même des ateliers d'écriture, parce que je trouve que c'est difficile de faire des retours sur le texte des autres. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal. Voilà ce que je peux en dire.
Alors, s'inspirer de Patrick Clopin pour faire écrire, c'est quand même tout un cérémonial, parce qu'il arrive avec un sac de sport rempli de livres.
Tu sais, les gros sacs Tati. Aussi, à l'époque, oui. Ça n'existe plus, Tati à Lyon, mais c'était des gros sacs comme ça, avec plein de bouquins dedans. Non, mais je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs. On a chacun notre style quand on fait des ateliers d'écriture. Je pense qu'il n'y a pas un atelier d'écriture qui ressemble à un autre. Ça dépend de la personnalité de l'intervenant, mais c'est bien de regarder les autres faire aussi.
Elisabeth Grandjean.
Si je trouve un micro. Oui, c'est bon. Non, moi je dirais que sur la question de faire écrire, pour moi c'est à la fois extrêmement différent et en même temps ça part de la même sensation qui est d'aller chercher l'essentiel. Chez soi ou chez les gens, et d'aider à faire accoucher de ça en s'appuyant sur les sens, sur les émotions, et de la même manière que je peux par ailleurs animer des ateliers théâtre, quand j'anime un atelier d'écriture, c'est cette jouissance de voir à un moment donné que ça y est, c'est là, et la personne elle a confiance dans ce qu'elle ressent, et on est comme des espèces de guides accoucheurs, ou en tout cas moi je me vois un peu comme ça, à donner des outils, à donner des petits déclics, à aider des choses. Mais l'élan, il est le même, et le plaisir, c'est important.
Moi, je voulais dire aussi la différence peut-être, c'est que faire écrire, on a affaire au corps de l'autre. Alors que, en tout cas, moi, j'écris très seule. Je m'isole, j'ai besoin de beaucoup de silence. Et vraiment, pas le corps des autres.
Un isolement sensoriel.
Comment ?
Un isolement sensoriel presque total.
Non, pas sensoriel, parce qu'il y a le monde qui m'entoure. Il y a les arbres, les animaux, le vent. Mais pas d'humain. Et c'est pas que je les aime pas, au contraire, mais c'est que c'est très puissant en fait. Et en atelier d'écriture, on a affaire au corps de l'autre, donc c'est tout à fait différent. Et puis il y a cette notion de la parole, c'est-à-dire que quand on fait écrire à partir de sa voix, C'est très physique en fait. On peut avoir un acte très, ça peut être aussi un acte très physique d'écrire, mais faire écrire, je trouve, c'est vraiment un acte physique. Et je trouve qu'un atelier d'écriture, avant même la question de l'écriture, c'est d'abord un groupe de personnes.
Alors il y a les groupes de personnes qui ont envie d'écrire, même qui font la démarche d'aller dans un atelier d'écriture parce qu'ils ont envie de se confronter à cet exercice. Et puis à faire écrire ceux qui ne se sentent pas autorisés à écrire ou ceux qui n'ont jamais aimé écrire, ceux qui se sentent loin de l'écrit. Vous l'avez relaté l'une et l'autre, Sylvie Calais et Judith Viart, dans vos ouvrages respectifs, ceux du CAP et puis Pas d'équerre. Comment on fait écrire ceux qui sont presque s'opposent à leur corps défendant à l'écriture?
Ben, je sais pas, leur montrer qu'ils sont autorisés à s'emparer des mots, même s'ils pensent pas les maîtriser, même s'ils pensent ne pas savoir écrire, et leur montrer qu'ils peuvent y prendre vraiment beaucoup de plaisir, s'amuser, jouer. Moi, pour moi, ça passe beaucoup par le jeu, par le côté ludique. Et puis aussi, là, je fais écrire des élèves de seconde en ce moment. On parlait des retours, valoriser, voilà ce qui émane, ce qui vient d'eux. Voilà, et là, ils ont écrit des slams sur des sujets qui les touchent profondément. Valoriser les sujets, valoriser leur travail sur la rime. Et du coup, la séance d'après, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Il y a déjà eu un petit déclic. Ils attendent l'atelier d'écriture. Donc, je pense que quelque part, ce n'est pas si difficile d'amener des gens au plaisir d'écrire en groupe, même si c'est un public rétif à la base.
Ouais. Moi, ils sont pas forcément rétifs, ils peuvent être intimidés au départ, ou alors ils prennent des prétextes, comme souvent les élèves, quand on leur demande d'écrire et qu'ils disent « je n'ai pas d'inspiration », un, « je n'ai pas d'idée », deux. Donc je leur dis qu'on n'écrit ni avec l'inspiration, qui n'existe pas, ni les idées. On n'écrit pas avec des idées. Donc déjà, je règle de la carte ces deux mots-là, c'est ce que j'explique dans Pas d'équerre, en fait. Je leur dis que l'inspiration, en fait, si c'est attendre que quelque chose vienne d'ailleurs et nous aide, en regardant en haut, généralement, l'inspiration, c'est plutôt en haut. Et bien, je leur dis de regarder en bas, en fait, ce qu'il y a autour d'eux, ce qu'il y a dans la salle, leurs camarades, les objets sur le bureau. On commence à écrire avec ce qu'on connaît et ce qui est vraiment là. Et puis, on n'écrit pas avec des idées à proprement parler. Mais bon, il faudrait développer un petit peu.
Quand on écrit, on pense souvent écrire pour être lu, à minima, mais il y a aussi écrire pour dire. D'ailleurs, c'est l'exercice auquel vous êtes prêté pour ce soir, parce que vous allez dire, jouer, interpréter, même incarner vos textes. Est-ce qu'on fait une différence quand on est à sa table ? Quand on écrit pour être lu ou quand on écrit pour dire ou pour être dit?
Oui. Je peux dire que moi, chaque fois que j'écris, il y a une dimension rythmique et orale de ce que je dis, en cherchant le mot juste, en cherchant... Donc toujours, même si j'écris pour être lu, je passe toujours par une phase orale qui permet d'entendre, de voir ce qui passe, ce qui frotte, ce qui... Donc c'est presque pareil. La différence ici, c'est que c'était quelque chose de ludique, c'était un jeu, c'était un amusement. Donc, c'est carrément autre chose.
Est-ce que cet exercice, les unes et les autres, vous l'avez abordé différemment que c'est un texte fait pour être lu?
Alors, moi, j'ai la moitié de ce que j'écris est écrit pour être dit, de toute façon. Donc, je crois que l'écriture, c'est juste un système de stockage de la parole, en fait. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mais en atelier, je dis, en fait, vous parlez, donc vous avez des choses à dire, et il y a les êtres humains ont inventé un système scriptural dans lequel on stocke ce qu'on a à dire, ça s'appelle l'écriture, donc voilà. Structurez ce que vous avez à dire, votre parole, et puis on va utiliser ce code qu'ont inventé les êtres humains pour la stocker, et on va pouvoir la ressortir comme ça, c'est un peu un congélateur, pour l'utiliser, comme on sort le lait du frigo, comme on sort...
Voilà. pourtant, parfois, on peut dire, et notamment aux enfants, c'est le conseil qu'on donne à les enfants qui ont du mal, mais si tu n'arrives pas à le dire, écris-le, écris-moi ce que tu n'arrives pas à me dire. Alors, c'est un peu antinomique aussi, parfois, notamment les enfants qui sont en difficulté.
On dit beaucoup de conneries aux enfants.
Ça, c'est vrai.
Et beaucoup d'injonctions. Et on en a tous reçu notre part là-dessus. Donc, et il y a l'autre versant qu'on n'a pas encore nommé, c'est la lecture. Voilà, on n'est pas seul. C'est une activité sans doute solitaire, en grande partie, mais on n'est pas seul. On a des alliés dans la place.
Oui, et puis après, il y a aussi quelque chose d'impalpable, il y a quelque chose qui n'est pas forcément didactique quand on fait ça. Il faut aussi accepter que des fois on arrive dans une classe ou dans une salle en prison, comme je peux arriver, et en fait on a préparé son truc, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et il y a aussi ce fil-là sur lequel il faut se suspendre, se laisser aller, et dire voilà, est-ce que ce moment que j'attends, j'ai préparé plein de choses pour qu'il arrive, est-ce qu'il va arriver? C'est aussi ça, hein. Tout ne se sait pas, tout ne se définit pas. Enfin, en tout cas pour moi, je ne cadre pas tout. Et je me laisse aussi surprendre, quoi.
C'est mon leitmotiv en atelier d'écriture, c'est ce que je dis aux participants, laissez-vous surprendre. Et nous aussi, il faut qu'on sache se laisser surprendre, effectivement.
Écrire, dire, ça c'était l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 ce soir, ce sera faire danser. Alors, ce soir vous avez de la musique pour vous aider, mais quand on parle d'écriture et puis quand on parle aussi de dire ce que l'on a écrit, on peut parler de rythme et de musicalité dans les mots, dans les phrases. Comment vous abordez ces dimensions-là dans votre écriture, dans votre style, dans votre approche? Alors, Islaine, vous nous avez dit, hein, vous écrivez beaucoup pour dire, voire même parfois pour le chanter. Mm-hmm. Donc peut-être que pour vous, ce sera facile de répondre à cette question-là. Mais j'aimerais aussi vous entendre, les autres participantes et participants, Estelle Dumortier, Frédéric Houdère, Judith Viard, sur cette dimension-là du rythme et de la musicalité de l'écriture.
Moi, je peux dire que j'écris depuis longtemps pour la danse. Ça fait 20 ans que je travaille dans la danse. Donc, j'ai fait beaucoup écrire pour la danse, écrire par la danse, écrire avec la danse, écrire contre la danse. Donc, c'est un acte de va-et-vient permanent entre l'écriture chorégraphique et l'écriture littéraire ou poétique. Mais en tout cas, pour répondre sur la question de ce soir, je suis allée vers quelque chose vers lequel je ne suis jamais allée. On peut dire que je me suis fait un atelier d'écriture toute seule. Je me suis beaucoup amusée. J'espère que les autres vont s'amuser aussi. Mais voilà, je me suis prêtée à un jeu, un exercice différent pour ma part. Mais pour moi, les questions qui relient la musique, la danse, mais même les arts plastiques, l'architecture, c'est une chose qui est transversale, c'est le rythme. Voilà. Le rythme, quelle que soit l'écriture, c'est le rythme, c'est ça le lien.
Et ce rythme, on se base sur une musique intérieure? Comment ça...
Le rythme plastique, par exemple, il est dans les lignes, les pleins, les formes, les plans. Ça, c'est une question rythmique, c'est une rythmique visuelle. Mais donc oui, concernant la musique, par exemple, en effet, c'est un beat, c'est un « et boum ». Et boum, c'est un entre-deux. Est-ce que c'est l'entre d'un choc ou est-ce que ce sont les chocs eux-mêmes? On prend le rythme là où on a envie de le prendre.
Sur le rythme et la musicalité, alors comment est-ce que ces deux notions peuvent habiter votre écriture, Judith Viard?
Moi, musicalité, c'est pas du tout un mot qui me vient à l'esprit. Enfin, quand je pense à mon écriture, en tout cas. J'écris plus spontanément de la prose, donc dans la prose il y a un rythme, hein, il y a des respirations, il y a des élans, mais la musicalité pour moi c'est pas un terme du tout que j'emploie pour mon écriture. En revanche, j'écoute beaucoup de musique quand j'écris. Énormément.
Est-ce que ça peut infuser à un moment?
Ouais, je pense.
Parce que je pense qu'on n'a pas le même rythme dans les phrases en fonction de ce qu'on est en train d'écouter.
Peut-être, oui. J'ai jamais intellectualisé ça, donc je pourrais pas en parler comme ça. Mais en effet, la musique a une grande importance dans ma vie et je pense que ça infuse à un moment. Mais enfin, voilà.
Je vois Frédéric Couder qui... C'est gratuit la barbiche. Ah, c'est un tic, je pensais que vous étiez en train de réfléchir.
Oui, je suis totalement capable de parler de ma musicalité ou ce genre de choses. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les écrivains qui me sont chers, c'est-à-dire des gens que je suis capable de lire un peu tous les jours, histoire de relancer la roue, histoire de me replonger dans le bain, ce sont des gens qui se distinguent par leur musicalité, par leur rythme, que ce soit Sandrars, Céline, Elroy, des auteurs très différents, mais on reconnaît tout de suite à l'oreille. Leur page, leur paragraphe, donc c'est très très net. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, après, sur ce que moi j'écris, je suis incapable d'en parler comme ça. Voilà.
Moi, je trouve ça génial en fait d'entendre Judith qui dit qu'elle écrit avec la musique. Moi, j'en suis strictement incapable. Mais quand j'étais adolescente, c'est ce que je faisais. Non pas que, mais ça m'aidait beaucoup en fait, parce que ça me mettait à un certain endroit. Je suppose en fait d'une forme de musicalité. J'ai ce mot-là qui vient, mais c'est peut-être pas celui-là. Mais aujourd'hui, je faut surtout pas que j'écrive avec de la musique. Ça me gêne en fait. Ça me bloque dans mon propre rythme parce que je l'entends. Donc je pourrais pas. Ça irait contre. Mais ce serait intéressant peut-être de le refaire.
La question du rythme, pour vous, Elisabeth Grandjean.
Moi, c'est la même chose que toi. C'est absolument. C'est comme si, quand j'ai ce désir d'écrire, cette espèce de pulsion d'écriture, c'est comme si j'attrapais des mots et un rythme intérieur que j'essaye de redonner. Donc, si j'entends une musique à côté, ça me coupe de ça. Et je ne peux pas. C'est absolument impossible. Voilà. Après, il y a une question de souffle aussi quand on rentre dans une écriture un peu longue. Les rythmes ils varient à l'intérieur de cette écriture là. Et juste, je voudrais revenir. Moi, je savais pas qu'il fallait qu'on fasse danser avec nos mots là ce soir.
Moi non plus. Hein.
C'est peut-être juste une extrapolation de ma part. Je vous livre comme ça une chose que j'ai entendue, disant que plus on écrit des phrases longues et plus le rythme des phrases devient ternaire en langue française. Et qu'on est dans quelque chose souvent de alors les phrases très courtes, très rythmées, on va être plutôt dans un rythme binaire, mais quand on commence à allonger les phrases, on va rentrer dans quelque chose de ternaire. Et là, ce qui le montre aussi, c'est qu'on aime bien en français, ce qui n'est pas vrai dans toutes les langues, quand on donne des exemples ou quand on fait des énumérations, souvent faire des paquets de trois. Ouais. J'avais entendu ça et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai. Je vois que ça... Il y a des réactions. Alors, on a la radio, il y a des réactions physiques.
En tout cas, moi, j'écris... quand j'écris de la fiction, j'ai besoin de silence, j'ai pas besoin de musique. Enfin, il en faut pas du tout. Après, quand j'écris de la chanson, parfois, je vais écrire directement sur la musique, ou je vais écrire un texte en ayant déjà dans l'esprit une certaine musicalité, voire même une rythmique déjà, sur laquelle j'écris intérieurement, et après, cette rythmique, je la transpose réellement avec des instruments numériques et autres. Donc, mais c'est vrai que j'ai fait l'expérience de plus les vers sont longs, et plus la rythmique, du coup, on va varier. Je ne sais pas si c'est exactement ternaire ou binaire, mais en tout cas, ça va varier, ça va influer dessus. Ça, c'est quelque chose qui est assez vérifié. Les chanteurs, surtout les chansonniers, ce qu'on appelle les chanteurs à texte, on peut très vite le remarquer dans les chansons. Vous prenez les chansons de Ferré, de Ferrat surtout, où il y a parfois des très longues phrases. Vous allez voir que dans la même chanson, il peut passer du binaire au ternaire, ce qui peut parfois dérouter. Donc oui, c'est assez vrai.
Ce qui fait que c'est pas si facile que ça de chanter en français. Mais peut-être que rythmiquement, en tout cas, c'est agréable de dire du français, de dire des textes, de dire des choses. Et peut-être aussi d'être dans ce rythme tout le temps un peu chaloupé. Alors que bizarrement, la musicalité de notre langue, elle reste sur quelques notes. Elle est très monocorde. Et puis, avant de laisser la place au bal, la dernière chose que j'aimerais soumettre à votre réflexion, c'est la question d'interpréter, d'incarner ce qu'on a au départ mis sur du papier. Cet exercice-là, il n'est pas forcément... On peut être écrivain, on peut aimer écrire ou être poète, et se trouver très en difficulté face à un public pour... parfois même pour assumer par la parole ce qu'on a écrit, mais aussi mais parfois pour le dire. Et j'aimerais savoir pour vous ce que représente cet exercice. Allez, on commence avec vous, Elisabeth Grange.
Alors pour moi, c'est un peu particulier, parce que j'ai deux métiers, je suis autrice et comédienne. Donc interpréter, j'ai l'habitude. Par contre, interpréter mes propres textes, c'est pas du tout la même chose. Autant quand je suis comédienne, j'apprends mon texte avec beaucoup de respect et de considération pour le texte que j'ai. Autant quand c'est mon propre texte, c'est beaucoup plus difficile de l'honorer comme quelque chose de très important.
Alors,
oui, je pense qu'il y a vraiment deux personnes en une. Il y a l'auteur. Et il y a l'interprète, ce sont deux postures. Il y a un pont qui lie les deux. Mais je pense vraiment qu'il y a un moment où on se met dans la peau de l'auteur et un autre moment où on se met dans la peau de l'interprète, quoi. Et il faut en être conscient. Et pour pouvoir mieux servir l'auteur et mieux servir l'interprète à chaque fois quand c'est le moment à l'un ou à l'autre de prendre la parole.
Oui, moi je pensais à servir le texte, parce que moi je suis vraiment autrice et je suis ni performeuse, ni comédienne, ni... voilà, c'est pas mon truc au départ, hein, c'est pas mon domaine. Donc la première fois que je suis montée sur scène pour lire un texte, en fait j'ai demandé conseil à une amie qui s'appelle Claire Terral, hein, pour lui demander comment je pouvais faire, parce que si elle avait des petits trucs à me donner. Elle m'a dit, mais écoute, les gens sont pas venus pour te voir, te regarder, mais pour entendre ton texte, donc c'est ton texte qui compte. Et tu le lis sans faire d'effet. Enfin, après, on peut jouer avec son texte et puis interpréter vraiment un peu comme une comédienne. Mais voilà, c'est mon texte qui est important, en fait, c'est pas moi. Donc je donne à entendre mon texte avant tout.
Frédéric Coudin,
c'est vraiment une question de moment. C'est-à-dire de saison presque. Il n'y a aucune obligation. Pendant 10 ans, je me suis occupé d'un cabaret poétique où les auteurs lisaient leurs propres textes. Il y avait parfois des lectures brillantissimes. Il y avait parfois des lectures extrêmement fragiles. Ça avait du sens. Ce qui est certain, c'est que... je comprends qu'Elisabeth se pose la question. Moi, je ne suis pas comédien. J'ai des amis comédiens. Ils ont des techniques qu'ils maîtrisent. Ils sont capables même de reproduire. Je suis... incapable de ça. Je suis pas musicien. J'ai pas la technique. Il me manque des choses. Donc je vais surtout pas aller sur ce terrain-là. Après, à ma grande surprise, j'ai pris un plaisir fou à lire des textes d'amis auteurs. Voilà, j'allais faire passer plus que peut-être lire mes propres textes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est comme ça. J'en suis là. Vous me proposez la question dans 5 ans. Je sais pas ce que je vous répondrai, mais
je vous propose peut-être que c'est la question de la résonance. C'est que du coup, quand un texte y résonne et qu'on vient l'incarner...
On n'a pas envie de le garder pour soi, on a envie de le faire. Ouais,
ouais, ouais. Dans la résonance, il y a des harmoniques, il y a des choses. Et...
Ouais. Ok.
Moi, il y a deux choses. Je suis écrivaine, je ne suis pas comédienne non plus. Donc, il y a à la fois le plaisir de lire, de partager, puis il y a le trac. Donc, j'espère que le public sera très bienveillant. Mais je n'en doute pas. Mais bon, j'espère que ce sera le plaisir de partager qui va dominer.
Mais parfois, je parle pour vous, hein, Sylvie Calais, parce que je le sais, vous avez tenu une chronique sur notre antenne, qui après a donné un livre. Donc il y a eu un chemin un peu différent.
Oui.
Donc vous n'êtes pas comédienne, mais en même temps, la question d'écrire pour dire, et puis ça, c'est quelque chose aussi qui a traversé votre parcours.
Oui, parce que j'aime être dans le lien, et ça en fait partie, effectivement. Et partager les mots, c'est quand même chouette.
Et puis, avant de lancer le bal, je vais vous laisser, si vous souhaitez aussi répondre un peu à cette question-là, Estelle Dumortier.
Moi, je suis pas comédienne non plus, même si je vais aussi sur scène et je peux faire travailler des gens en théâtre, mais je performe. Elisabeth parlait tout à l'heure de souffle. Je pense que, pour ma part, en tout cas, c'est de... Si je monte sur scène pour dire mon texte, il faut que je retrouve la voix du texte. et son propre souffle. Et comme j'écris beaucoup avec un rythme intérieur, il faut que je le retrouve. Il faut que je retrouve ce qu'il a à raconter, mais à raconter comme rythme. Et donc, il ne s'agit pas d'interpréter ce qui est raconté, mais peut-être de donner à voir le fil de l'écriture, quel que soit le sens que ça pose.
Merci à vous toutes et vous tous pour ce moment d'échange, pour cette discussion comme ça, qui était... En plus, je ne vous avais pas dit avant de quoi on allait parler, donc c'est bien, il y a eu des choses qui sont jolies, il y a eu des petits silences, des hésitations, et c'est ça aussi qui fait la beauté du moment qu'on a vécu. On va passer maintenant au bal, avec grand plaisir, restez à l'écoute de Calade.
Les oiseaux cuicuites, le soleil, le jasmin en baume, vous connaissez la chanson, on se croirait dans un magazine.
Calade. Le bal littéraire est de retour à la médiathèque de Villefranche. Cette année encore, en partenariat avec l'espace Pandora, dans le cadre du magnifique printemps, 6 auteurs et une DJ feront danser petits et grands entre les lignes et les mots.
Il faut savoir tout donner.
Venez vous évader au son de vos tubes favoris et découvrir la poésie sous toutes ses formes avec les auteurs Sylvie Calais, Ghislain N, Estelle Dumortier, Elisabeth Grandjean, Frédéric Houdert et Judith Biart et la DJ Mademoiselle Charby.
Et personne pour me dire, reviens à la vie Judith.
Rendez-vous à 19h à la médiathèque de Villefranche le jeudi 21 mars pour découvrir cet étonnant bal littéraire ou vivez-le en direct sur Calade à partir de 18h30.